Et c'est là où quelque chose commençait à bouger en moi. Dans mes autres tournées, normalement, de quêteux que j'avais faites, j'étais beaucoup plus structuré, j'avais un échéancier, j'allais chez un tel à telle date, et puis le lendemain, j'avais rendez-vous dans une autre maison, et le surlendemain, alors par insécurité, je m'enlevais de la liberté. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte. Ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de compte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez, il était une fois dans l'Est. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler d'une collecte d'histoires que j'ai faite en France à l'hiver 2024. Alors, pendant que j'avais un programme principal, c'est-à-dire aller traquer une histoire, je savais que j'allais avoir un genre de 2 mois et demi à tuer. Alors, dans cet épisode-ci, je vais passer 40 minutes avec vous à tuer du temps, si ça vous parle. On va faire ça de même. Cette collecte en Bretagne-là, en fait, était un long détour. Mais dès le début, c'était un long détour. Mon objectif principal, c'était d'aller chercher une histoire. Tout près de Poitiers, il y a un couple de conteurs qui sont installés là, qui avaient en leur possession une histoire que je voulais absolument aller chercher. Donc, je voulais aller les rencontrer, mais je savais que ce ne serait pas possible tout de suite. Donc, je m'étais aménagé un 3 mois de disponibilité. Et quand vous pourrez, paf, je prends le train, peu importe, je viens vous rejoindre. Et d'ici là, moi, m'occuper, faites-vous-en pas avec moi. Alors, tant qu'aller en France pour aller chercher une histoire, optimise l'affaire, puis passe du temps sur le territoire, puis ramasse plein d'histoires, quoi. Mais ça a été un détour, ça a été ficelé de détour, cette affaire-là. Dès le début du voyage, en fait, il y a eu un problème dans mes transferts en avion. Je passais, comme prévu, je faisais Québec-Toronto, Toronto-Lisbonne au Portugal et puis Lisbonne-Séville en Espagne pour aller retrouver des amis, faire un petit croche. Des gens qui m'avaient dit « Ah ben là, si tu vas en Europe, tu peux pas venir sans venir nous dire bonjour. » Alors, j'ai comme accepté d'aller faire une petite soirée de compte chez eux. Mais malgré tout, je me ramasse à Toronto et puis paf, retard dans mes vols et je passe 48 heures coincé dans un genre de quartier industriel à Toronto. Le seul prochain vol qui s'en allait pour Séville, c'était 48 heures. Et la compagnie aérienne te dédommage, mais pas tant que ça. En fait, je me dis, ça va être cool, 48 heures. OK, accepte ça. Anyway, t'avais 3 mois. C'est pas comme si t'avais juste une semaine puis que tu venais de perdre 2 jours, tu sais. Cool, ton séjour commence par 2 jours à l'hôtel. Je me voyais déjà dans ma robe de chambre blanche à me commander de la pizza. Une espèce de home alone, mais à Toronto. Exception faite que la compagnie aérienne te donne seulement des coupons pour 24 heures. Alors, tous mes repas, c'était des coupons qui étaient valides à l'aéroport. Alors, il fallait que je retourne à l'aéroport, avoir mes coupons de la journée pour pouvoir manger. Sinon, il fallait que je mange à mes frais, puis ça m'insultait tellement. Et mon hôtel, c'était 2 soirs d'hôtel, sauf que ça n'allait pas nécessairement être dans le même hôtel. Donc, je devais repartir avec mes bagages, aller à l'aéroport, demander un autre ticket et il allait me donner une autre chambre à quelque part. J'ai commencé ce voyage-là dans les limbes. J'avais l'impression d'habiter un aéroport et 63 heures plus tard que prévu, en fait non, je pense 48 heures plus tard, j'ai finalement pu reprendre un vol qui m'a amené à Montréal et j'en venais pas. Ça faisait 48 heures que j'ai... En fait, plus que 48 heures, moi, il y a 8 heures de route pour faire Carleton-Montréal et... Ça fait genre 3 jours que je suis parti et je suis juste rendu à Montréal. Comment va ton voyage, Pat? Bof! Je suis encore en sol très canadien, mais canadien de chez canadien, là. Alors, mon premier arrêt dans ce voyage-là a été un arrêt qui était un peu hors compte. C'était un arrêt chez des amis qui m'avaient dit « Tant qu'à passer en France, fais un petit détour par l'Espagne, viens-t'en chez nous, on est juste à côté, on va te recevoir. » Et moi, ça vient avec une tonne de culpabilité parce que je sais que j'ai acheté mon billet d'avion pour aller travailler en France. Travailler, on s'entend, pas travailler pour de l'argent, mais travailler. Ouais, je sais pas c'est quoi votre vision du travail, mais moi, c'est de chercher des histoires. C'est pas la chose la plus payante qui soit. Et ce que je pensais qu'était un détour d'amitié pour aller dire bonjour et des espèces de retrouvailles d'une couple de jours que je me permettais malgré ce voyage-là, j'avais quand même une espèce de culpabilité d'aller voir des chums hors compte. Pas que j'avais eu une subvention pour aller chercher des histoires, non, au contraire. Mais au contraire, ils m'ont pas pris de l'argent, ils m'ont juste pris beaucoup de temps. Mais j'avais envie d'investir mon temps, j'avais envie que ce voyage-là en soit un qui soit orienté autour d'une démarche sérieuse de compte. Mais mes amis m'ont fait une surprise géniale qui était que finalement, elle est grecque, lui est britannique, c'est pas ça la surprise, mais ils ont invité une couple de leurs chums de ce coin-là et on s'est ramassé genre 13 nationalités autour de la table à partager une soirée puis on s'est installé au bord du foyer et on a fait une soirée de compte. Et j'adore compter en anglais parce que ben, je suis pas habile pantoute. En fait, je perds mes moyens qui deviennent un peu des béquilles. Tout d'un coup, t'as plus l'outil de la langue avec lequel tu te débrouilles assez bien, t'arrives à faire des jeux de mots puis des belles tournures de phrases des fois. Plus du tout. T'es en train de parler comme un enfant de 4 ans, 6 tout au mieux. Et tout ce qui te reste, c'est l'histoire, c'est sa structure. Et elle a d'affaires à être bonne. Alors, ça me fait un peu retomber en fait, redécouvrir les contes que je porte. Dans des soirées de même, je fais pas mal des histoires qui sont de mon répertoire court. Et on passe la soirée à finalement y aller d'une histoire, on parle un peu, une autre histoire, on parle un peu, on rebondit, on va chercher une bière, on passe, on sort une autre pizza. Et finalement, c'est ça mon comité d'accueil. Je pense qu'après 3 jours en Europe, j'avais déjà une soirée de compte, alors qu'il n'y avait à peu près rien de prévu autre que j'irais croiser mon couple de compteurs qui avait une histoire à me donner à un moment donné. Mais déjà, sur mes 90 jours de voyage, en 2 jours, paf, une première soirée de compte. Ça m'a mis dans une espèce de confiance vis-à-vis de ce voyage-là. L'instant d'après, ben, je disais au revoir à mes amis en Espagne. Je prenais un vol, je m'en allais à Lyon, dans le sud de la France. Et j'avais un ami qui était tout près de Lyon, en Ardèche. Et chez lui, c'était correct. Je pouvais aller passer une semaine, je rencontrerais son monde. Et puis comme de fait, j'arrive en Ardèche chez mon ami Fabien, qui vit dans une espèce de collectif et qui me prête sa communauté. Et pendant une semaine, j'allais rester chez lui. Alors, je m'entends avec Fabien. En fait, moi, de ce que j'avais, une des seules patentes que j'avais de prévu, c'était que là, on est à peu près à mi-janvier, mais moi, mon mois de février, je m'étais entendu en Bretagne avec une amie qui est là-bas pour y louer une chambre. Je m'offrais une espèce de résidence. Ça me ferait un lieu duquel partir pour naviguer dans les environs, pour être beaucoup plus stable et pouvoir explorer un territoire sans avoir à chaque soir me demander où c'est que je dormirais. Donc, d'ici là, moi, j'ai une quinzaine de jours à tuer. On s'entend. J'ai une quinzaine de jours un peu incertains d'ici à ce que j'arrive dans le petit appartement que j'allais louer. Et mon ami me dit, oh, « Oui, il n'y a pas de trouble, Pat. Regarde, tu peux passer 2 semaines ici sans problème. On a un dortoir. Installe-toi là. » Et il m'a prêté ses amis. On a fait une première soirée de compte chez lui. Et à la fin de la soirée, ben, je passe le mot. Si jamais vous avez besoin d'un compteur dans votre coin, les autres, n'hésitez pas, je suis ici, je suis disponible pendant 2 semaines. J'ai juste rendez-vous en février. Alors, je suis à votre disposition. Et tout ce que je souhaite, c'est rencontrer du monde. Et ni une ni deux. Il y en a un qui me donne son numéro. Moi, je donne mon numéro à 2 autres. Et puis, me v'là avec 2 semaines de déjà booké devant moi. Dans 2 jours, tu t'en vas compter chez un tel. Dans 3 soirs, tu t'en vas donner un atelier de compte à telle place et puis ça. Et tout s'est enligné à vitesse lumière. Moi, je retournais dormir chez mon ami au besoin. Petite parenthèse, ce séjour-là, on m'a parlé d'un Belge, un jeune qui était, m'a-t-on dit, qui avait déjà arrêté à Carleton voir mon spectacle lors d'un de ses voyages il y a genre une dizaine d'années. Et puis, ça pique ma curiosité. Bon, lui est dans le réseau d'amis de chez qui j'étais et puis on faisait une soirée de compte. Donc, le mot s'est passé et puis le Belge fait comme à mon ami Fabien. « Ah, j'ai déjà été le voir, je crois, à Carleton. » Et ça reste tel quel. Fabien me dit ça. Il y a un Belge qui te connaît qui va venir. Et finalement, le Belge en question se pointe le bout du nez dans une soirée de compte qu'on fait dans le salon. Et il me dit un peu... j'étais avec une amie, on était en camping et puis on avait été voir ton spectacle. Et tu nous avais hébergés après le spectacle, parce que ça fait tout le temps ça. Il y a du monde qui s'approche de moi à la fin du show, une fois qu'il n'y a plus personne, puis que j'éteins mon feu, puis ils font comme, « Y a-t-il une place où on peut dormir ici à Carleton? » Et ben, c'est plus fort que moi de lui dire, « Ben oui, viens-t'en chez nous, viens piquer ta tente. » Alors, eux étaient venus et ça s'adonne que la personne, l'ami en question, avec qui il était, c'est une conteuse qui s'appelle Camille, qui est maintenant du côté nord de la Gaspésie. Alors, c'est quand même un hasard tellement improbable de 12 ans plus tard croiser ce Belge-là pendant que je suis en France. Je vous laisse faire les rapports de distance dans tout ça. Et qu'il me parle de quelqu'un qui maintenant s'est établi en Gaspésie et puis a mis les pieds dans le compte carrément. Et non seulement elle a mis les pieds dans le compte, mais c'est elle qui, je vous en parlais dans un autre épisode, j'y arrivais en disant « Camille, j'aurais une histoire pour toi. » Et puis qu'elle me dit « Ah ouais, un jour, Patrick, j'irai te la chercher. » Alors, le monde est petit. Fin de ma petite parenthèse, on fait comme si j'avais rien dit, puis on reprend. Et il y avait un confort là-dedans qui me faisait questionner un peu mes manières d'organiser mes tournées. J'étais dans l'imprévu, j'avais pas planifié mes couchers, mais je me retrouvais avec une masse de temps disponible qui me permettait de dire oui à n'importe quelle opportunité. À partir du moment où j'avais un port d'attache, un lieu tranquille où poser mon sac sans être stressé, je pouvais, de manière décontracte, me trouver facilement un réseau sur lequel m'appuyer et m'introduire dans une communauté. Et c'est là où quelque chose commençait à bouger en moi. Dans mes autres tournées, normalement, de quêteux que j'avais faites, j'étais beaucoup plus structuré, j'avais un échéancier, j'allais chez un tel à telle date, et puis le lendemain, j'avais rendez-vous dans une autre maison, et le surlendemain, alors par insécurité, je m'enlevais de la liberté. Et c'est ce qu'on fait dans la vie en général. Plus tu veux de sécurité, moins tu as de liberté, et vice-versa. Je veux dire, j'invente rien là. Mais dans mes tournées, donc, en étant coincé dans un horaire, eh bien, je me trouvais à pas pouvoir mettre dans mon panier tout ce qui était des petites opportunités qui se présentaient sur le bord du chemin, tous des détours qui apparaissaient puis qui finalement, c'est peut-être ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher dans ces tournées-là, d'avoir le temps, de prendre le temps. À quoi ça sert de multiplier les rencontres si on ne peut pas en profiter, si on ne peut pas passer une journée de plus chez cette personne-là ou si on ne peut pas profiter du contact que cette personne-là nous a donné pour aller rencontrer le forgeron du village, puis que finalement, il dit « Veux-tu faire un atelier de forge demain? » Drette cet exemple-là. En fait, pendant que je suis passé en Bretagne, il y a un crêpier qui m'a donné un atelier d'un matin où j'ai flippé genre 1000 crêpes bretonnes parce que j'avais le temps. Est-ce que c'est du compte? Non. Mais est-ce que c'est de l'expérience qui vient nourrir ma manière de voir la Bretagne quand je compte une histoire bretonne? Oui, définitivement, ça vient teinter mon expérience, donc ma manière de parler de ce territoire-là. Alors, je pense que, entre autres, c'est là où ce voyage-là, cette salle d'attente de 2 mois et demi est venue briser quelque chose en moi, c'est venu briser l'insécurité. Puis en fait, c'est venu créer un besoin de liberté puis de pouvoir saisir les opportunités dans mes prochaines tournées de compte à travers le Québec. J'ai envie de pouvoir prendre le temps du Québec la prochaine fois et non pas d'être pressé de faire mon échéancier à travers le Québec. L'instant d'après, je retournais par Lyon pour m'en aller vers la Bretagne, traverser une espèce de 8 heures de route en voiture. J'ai pas eu le temps de m'organiser mon déplacement pour faire Lyon-Quimper que... Je suis dans Lyon, je visite un petit musée, puis à un moment donné, j'allume, je réalise « Hey, mais il y a des spectateurs en Gaspésie qui viennent régulièrement voir mon spectacle qui sont de Lyon. » Je me souviens d'un couple qui viennent comme 5 ou 6 fois dans l'été. Elle m'apporte toujours du pain ou de la confiture à mon spectacle. Alors, on a une espèce de belle relation. J'ai été boire de la bière chez eux, on a discuté. C'est des connaissances de contes. C'est pas des conteurs, des conteuses, c'est juste du monde qui aime bien ça. Et eux, ils sont originaires de Lyon, mais ils vivent maintenant en Gaspésie la moitié de l'année. T'sais. Et tant qu'à être là, petit clin d'œil, je leur envoie un texto en lui disant « Hey, c'est drôle, pendant que vous êtes en Gaspésie, moi, je suis chez vous à Lyon. » Elle me répond « Attends, on n'est pas en Gaspésie, on est à Lyon. Il faut absolument que tu viennes chez nous. On va organiser une soirée de compte quand tu veux. Viens dormir le temps que tu veux. On va venir te chercher. Dis-nous, t'es où? » Et je me fais kidnapper. Comme ça, j'écris à la fille chez qui je m'en vais en Bretagne pour lui dire « Ah, finalement, ce ne sera pas ce soir que je vais arriver. Donne-moi une couple de jours de plus. Il y a un petit imprévu ici. » Et me v'là qui prend un train et puis un autre. Et j'arrive chez ce couple-là. Et elle qui m'accueille est fan de contes. Et en fait, est fan de Gaspésie, est fan de de leur nouvelle vie en Gaspésie. Alors, tout ce qui côtoie en Gaspésie fait partie de cette espèce de rêve-là. Et à chaque fois qu'ils rentrent chez eux, qu'ils rentrent au pays, en fait, à Lyon, eh bien, ils parlent à leur milieu, ils parlent à leur réseau, ils leur racontent un peu le voyage qu'ils sont en train de s'offrir pour leur retraite, ces paysages verdoyants. Et mille fois, elle leur a raconté que le soir, ils vont voir le petit compteur à Carlotton. Eux, ils sont à New Richmond, ils font en route. Et puis, alors, elle est toute énervée d'organiser chez elle une soirée de compte où est-ce que enfin sa famille, ses amis vont pouvoir avoir une espèce de fenêtre sur leur vie gaspésienne. Ils vont pouvoir goûter un des mets qu'elle s'offre de temps en temps. Le lendemain, il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont dans le salon. Et la soirée de compte débute. Je suis installé sur le bord de le feu. On a revisité le salon au complet. Il y a de la chaise partout. Il y a eu un souper incroyable. Et au lieu de faire plein de mes petits comptes, vu que c'est une soirée, ben j'y offre, je les offre. Je dis, bon, y a-tu quelque chose, y a-tu un compte en particulier que vous aimeriez que je fasse à vos amis? Tant qu'à être là, demande spéciale. Et elle me dit, ah oui, cette histoire-là en particulier, j'aimerais vraiment qu'ils l'entendent. Pas de trouble, c'est parti. Et je le fais, cette histoire-là. Et une fois la soirée terminée, une fois en fait le compte terminé, on se remet à jaser tout le monde ensemble. Et puis il y en a qui s'en vont, il y en a d'autres qui ont débouché une bouteille de vin, puis ça continue. Et puis elle vient me voir, puis elle me dit, ah Patrick, quand ça a commencé, quand tu as commencé à compter, j'ai eu une espèce d'émotion. Je me suis dit, oh, mais ça y est, il est chez moi, c'est en train de se passer chez moi, mes pains, c'est moi. Et j'étais tellement content de pouvoir, d'avoir cette latitude-là, de prendre le temps de ça. C'est pas que c'est un spectacle particulièrement bon, mais la charge pour elle était tellement grande, l'appréhension. Et si c'est pas ça le but d'une histoire, faire vivre des émotions, ben je vois pas ce que c'est. Et là, elle était là à me témoigner de l'empreinte que ça laissait chez elle. Et ça me faisait seulement apprécier davantage ben, les deux mois qui s'en venaient devant moi où est-ce que je savais que j'allais recréer des soirées de compte comme ça, back-à-back, peut-être bien à chaque soir. Donc, j'ai passé un 2 jours chez eux. Et puis, finalement, je me suis trouvé un covoiturage qui faisait exactement leur ville jusqu'à la ville où je m'en allais. Mais c'est deux petites villes. C'est un truc un peu absurde. C'est comme si tu trouvais un lift qui fait Amos-Percé. Percé, c'est trop populaire. Amos-Murdochville. Ben, pas que vous n'êtes pas populaire à Murdochville, mais c'est quoi les chances? Eh bien, ça donne que moi, le lendemain matin, il y avait ce lift-là qui partait. J'embarque avec deux femmes qui me prennent et on traverse pendant 11 heures. Pendant 11 heures, on traverse la France. Il y a des barrages routiers un peu partout parce qu'il y a les agriculteurs en train de faire des revendications puis de bloquer des ronds-points en brûlant des palettes un peu partout. Et le soir, on arrive tout près de là où j'avais une chambre qui m'attendait depuis déjà 48 heures. Mais avec le retard qu'on avait pris sur la route, eh bien, de noirceur, ça n'allait pas être possible pour moi de faire du stop pour me rendre chez mon ami. Alors, encore une fois, j'écris à mon ami et j'ai dit, « Ah, je suis désolé, mais ça va aller à demain. Attends-moi pas. Je vais dormir chez les filles qui m'ont fait le lift. » Mais en fait, c'était pas chez elles. On n'avait pas été clair là-dessus. Elle s'en allait dormir chez une amie. Et pendant qu'on est sur la route, ils textent leur ami puis ils lui disent, hey, « ça te dérange-tu si on amène un pousseux avec nous à dormir chez vous? » Et leur ami a dit, « Ben oui, il n'y a pas de problème. » Et finalement, le soir, on arrive chez l'ami. Et l'ami a fait comme, « Mais c'est qui, lui? » Ben, les filles font, « Ben, on t'avait dit qu'on embarque un pousseux. » Et elle dit, « Ah, oh, mais je pensais que c'était une blague. » Et moi, j'ai répondu à la blague, « Ah oh, oui, il n'y a pas de problème. Ben oui, on a un pousseux. Et ben, on va faire avec, quoi. » Et devant tout cet improbable-là, une espèce de petit malaise, et ben, OK, on va te faire une chambre, mon grand. Ben, merci, enchanté. Moi, c'est Patrick, je suis conteur d'histoires. Veux-tu des histoires? Ah oui, on se fait une soirée. Et à l'improviste, comme ça, on a tapé là, je pense qu'il était 11 h le soir, et de 11 h à minuit, on s'est fait des contes sur le bord du feu. Et c'était comme ça que j'atterrissais en Bretagne. Le lendemain, je repars sur le pouce et je m'en vais dans ma chambre pour le mois. En fait, le mois moins 2 jours parce que je viens encore de... Ben déjà moins deux jours parce que février, mais moins un autre 2 jours parce qu'il n'y a pas moyen de se rendre. Et me voilà qui arrive dans une petite ville qui s'appelle Pont-Croix, c'est dans la pointe du Raz. Et je commençais là une nouvelle forme de voyage pour moi. Un voyage avec un camp de base, un lieu où j'allais pouvoir rester et aborder des organisations des environs, puis lui dire « Salut, je m'appelle Patrick, si vous voulez, je suis disponible, je suis un compteur, je peux donner La formation, je peux donner des spectacles. Mon souhait, moi, en ce moment, c'est de récolter des histoires. Puis le meilleur moyen de récolter des histoires, c'est de rencontrer des gens. Puis le meilleur moyen de rencontrer des gens, bien, c'est de raconter des histoires. Fait que je suis disponible, tu sais. Et je reste un peu mi-figue, mi-raisin face à cette expérience-là. J'ai réalisé que d'être statique, ça me faisait perdre un peu la fébrilité du voyage, l'espèce d'hyperactivité des rencontres, parce que trop facilement, tu peux rester chez vous. Ça faisait seulement une vingtaine de jours que j'étais parti en voyage, mais déjà, si je pouvais passer une journée à la maison à lire mon livre puis à faire mon lavage, ben tout d'un coup, on dirait que j'avais envie de me reposer un peu. Et je réalisais en fait que moins je dépendais des autres, eh bien, moins je me rapprochais des autres. D'avoir besoin de l'autre pour avancer, d'avoir besoin de l'autre pour m'héberger, pour peut-être me donner un dîner, ça faisait en sorte que j'avais une réelle connexion qui était authentique. Cette personne-là me venait en aide, contribuait à mon voyage et en faisait partie. Tandis que là, en étant autonome chez nous dans mon petit loyer, eh bien, j'étais autonome chez nous dans mon petit loyer. Est-ce que notre désir d'être autonome, indépendant, nous rend plus individualistes? Moi, c'est ce que j'ai vécu à travers cette expérience-là d'un mois à avoir un appart. Et en même temps, t'es là, t'as 90 jours en tout, tu veux pas en flamber à scroller sur Facebook ou à t'écouter des films sur Netflix. T'es là pour aller faire des rencontres. Mais malgré tout, moi, il y a une espèce d'inertie qui s'installe. La mousse pogne sur moi. Mais quand même, je me force, je vais voir une librairie à côté puis une autre, puis dire « Salut, si vous voulez des spectacles de contes », tout le monde me dit « Bah, dans 3 mois peut-être, là, notre programmation ». Non, désolé, je suis juste ici pendant 1 mois. Et somme toute, ça finit par se ficeler. Je réussis à avoir des soirées, mais qui vont être vers la fin du mois, parce que le plus tard possible. Et ça a été des belles soirées dans des petits cafés, dans des petites librairies, mais ça a été tellement de travail, contrairement à normalement comment ça se passe à l'improviste, ça a été du travail d'aller rencontrer peut-être bien une quinzaine de librairies pour finalement aboutir dans 2 librairies et puis 500 courriels plus tard, une petite affiche pour dire un compteur québécois, envoie-nous tes communications, envoie-nous ton site web, ta bio, pis ci, pis ça. Contact du monde, tout le monde qui t'a pris en stop, écris-le un texto pour lui dire « Eh bien, ce soir, je serai à Pont-Croix à la librairie si ça vous tente. » Et à la fin de cette soirée-là, de ces soirées-là de compte, eh bien, mon objectif était un peu raté. Les gens étaient venus consommer du conte, ils étaient venus voir un spectacle, mais personne n'en avait à me raconter. Ça avait créé un peu cette relation-là de consommation plutôt qu'une relation d'échange, parce que j'étais passé par des lieux de diffusion plutôt que des lieux de rencontre. En fait, au mieux, ce que j'ai gagné dans cette expérience-là, ça a été d'avoir des contacts pour mes prochains passages en Bretagne. Je sais que ces librairies-là ont bien apprécié leur expérience et qui seront disponibles pour qu'on refasse une petite soirée facilement comme ça. On s'est rendu compte, entre autres, que les clientèles qui venaient, les gens qui sont venus assister à ces spectacles de contes-là, ils venaient pas nécessairement parce que c'était un conteur, ils venaient pas nécessairement parce que c'est des gens qui aiment le conte, non, mais plutôt parce que c'était écrit conteur québécois. Ah, ça, vraiment, du québécois, notre capitale de sympathie là-bas, c'est énorme. T'aurais dit... Même québécois, il serait venu pareil parce qu'il aime tellement notre accent et puis il se gêne pas pour te le dire. En fait, il venait pour l'apparence de ce que j'avais à offrir. Ce qui est un peu complexant, tu te dis, mais j'ai des propos quand même, mais bon, ce qui fait qu'ils sont là, c'est le contenant. Et coudonc, tant mieux si ça lui permet un espèce de petit voyage au Québec. Je pense que c'était pour ça qu'il venait. Mais ouais, d'être pendant 1 mois au même point, je crois que ça a été beaucoup moins productif que tout le temps que j'ai passé à me promener, à me déplacer d'un hébergement à un autre et puis d'une rencontre à un autre. Entre autres, dans ma préparation puis dans les perches que j'ai lancées, ça a été une gang d'impro qui voulait un atelier. Ben, je me dis, tiens, pourquoi pas, un atelier de conte, oui, je peux donner ça, initiation au conte, puis eux, ben, il y aura des parallèles à faire. Et la veille, je crois, genre j'ose avec un des organisateurs du truc, et il me dit « Donc, notre atelier, on aimerait que ça nous aide dans nos impros à faire de la narration plus précisément. » Et là, je comprends que ça va falloir que je sois pas mal plus organisé puis que je le fasse un atelier, mais vraiment adapté à de l'impro. Et moi, j'ai ce background-là d'impro, mais je n'ai jamais donné de formation pour faire de la narration en impro. Et pendant un bout, je me creuse les manèges à voir comment je pourrais les organiser ça. Et finalement, je suis arrivé avec une proposition qui consistait en ça ici, qui était Regardez, moi, je peux pas vous montrer à composer rapidement des histoires puis à être bon là-dedans. Non, ça, je sais pas comment le faire. Moi, je prends des histoires qui sont pas à moi de toute manière. Mais ce que je peux vous dire, c'est comment être à l'aise pour faire une narration pour que même quand ça va mal, tu sais, relax puis tout va bien. Moi, vous le dire, mon truc, c'est qu'en fait, en narration, le plus difficile, c'est faire avancer l'histoire. Si tu fais avancer l'histoire, en plus, si tu improvises, eh bien, ça va être des relations de causalité. Il s'est passé ça, donc ensuite, il s'est passé ça. Fait que là, il a fallu qu'il fasse ça. Et puis ensuite, et tu avances comme ça d'une manière un peu linéaire et chaque élément que tu auras posé va avoir des conséquences sur la suite et tu devras en tenir compte. Alors que moi, bien souvent, ce que j'ajoute par une narration, c'est là où j'improvise, ça sera pas dans du narratif, mais ça va plus être dans du descriptif. On est autour du personnage et on ajoute des éléments autour, des éléments pratiquement de décor. Le personnage avançait dans la forêt, les bruits autour de lui, le poids de son sac sur son dos, l'odeur de l'automne, le bruit des oiseaux, plein de petites diapositives comme ça qui viennent nourrir l'espace où on est. Et à la limite, aucune de ces diapositives-là aura d'incidence sur une autre. Alors, il n'y a presque pas de conséquences. Tu peux déposer n'importe quoi, ça va juste venir compléter l'affaire, ça va l'enrichir sans jamais l'appauvrir. Et ça, tu peux faire des 360 autour de ton personnage, mais tant que tu veux, et là je dis autour d'un personnage, mais ça peut être autour d'une action. Dès que tu ajoutes de la description, tu as du lousse. Et moi, ce lousse-là, je passe mon temps à m'en servir. Pendant que je raconte, des fois, je ne sais pas où je m'en vais, ou même je suis en train de compter, mais en même temps, je suis en train de réfléchir à ce qui se passe dans l'assistance. Ce monsieur-là, il est-tu en train de se lever pour aller aux toilettes ou il est en train de se lever pour partir sans payer? Et moi, c'est le genre de réflexion que j'ai pendant que je compte. Et pour avoir l'espace mental pour faire ça, ben, je suis un peu en train de faire du surplace dans l'histoire. Mes deux personnages étaient à cheval, ben, tout d'un coup, ils sont à cheval pendant 10 secondes de plus à regarder le paysage parce que mon attention est un peu ailleurs. Ou pendant que je cherche la suite de l'histoire, eh ben, je fais du surplace. Et on ajoute des éléments descriptifs pour me donner le temps de chercher. Il y a un peu comme 3 ou 4 ronds sur le poêle d'allumer en même temps pendant que je compte, à réfléchir, à me dire « Oh, il va-tu pleuvoir? Faudrait-tu que je rentre tout de suite? » Non, attends encore un peu. Tiens, on va attendre qu'il se mette à tomber quelques grains. Et là, on rentrera, puis on verra. « Ah, OK, bon, le monsieur est revenu. Oh, lui, il entend-tu? Ah, tiens, il y a un chien qui a jappé. Est-ce qu'il faut que je répète ce que je viens de dire parce que le monde n'a pas entendu? » Tout ça, le descriptif me permet de le faire. Et c'était de donner un atelier d'impro qui m'a vraiment permis d'isoler cette composante-là de ma pratique, finalement. Pendant mon mois où j'étais un peu sur place, je cherchais quand même des manières d'entrer en relation avec le monde du milieu. Et c'est pas évident. Des fois, bon, t'as pas tes accès. Et aussitôt que j'ai vu qu'il y avait une ligue de palais bretons, en fait, c'est un gars qui m'avait pris sur le pouce pour m'amener là. Il me dit « Ah, ce soir, il y a du palais breton. » Et c'est une espèce de pétanque, mais avec des disques en fonte que tu jettes sur un plywood. Il y a de la chip de bois qui revole. Et moi, en apprenant ça, ben, ni une ni deux, aha! V'là ma gang du lundi soir, à tous les lundis. Maintenant, je peux faire ça, je suis là pour un mois. Eux, je vais pouvoir aller les retrouver, ça sera mon rendez-vous hebdomadaire. Et j'y vais une première fois et j'apprends que demain, il y a une ligue de tarot, c'est une game de cartes qui est là-bas. Il m'a fallu comme 2 semaines pour apprendre à jouer au tarot avant d'être capable d'aller là-bas pour être un peu de calibre, pour pas être l'espèce de pied qui retarde tout le monde et qui sait pas jouer, qu'il faut tout le temps y expliquer les règlements. Mais malgré ça, je trouvais que c'était difficile de créer du lien. Oui, j'étais le Québécois qui joue au tarot, ça c'était bien drôle. Mais bon, en même temps, c'est un jeu de cartes qui est assez compliqué, puis t'as pas trop le temps de jaser, puis de faire hey, « vous, avez-vous des histoires à me conter? » Mais somme toute, ce mois-là a été pour moi un peu du surplace. Et ça a vraiment été la suite qui a été payant, qui m'a rapporté mais une masse d'histoires à partir du moment où je me suis remis à me déplacer. Je me déplaçais en stop, j'avais... Bon, pendant mon mois de surplace, j'avais un peu planifié la suite. Ah oui, tiens, un tel, je pourrais aller le voir du côté nord, un tel un peu plus dans l'ouest, dans l'est. Des points comme ça sur ma carte sans trop savoir comment je tricoterais pour m'y rendre, sans trop savoir ce que je ferais avant. Et je me déplaçais en stop vers là. Et pendant que je me déplaçais en stop, ben là, les gens que je rencontrais, ils me disaient, ben là, tu fais quoi, t'es Québécois? Ah ben, je suis conteur d'histoires, je suis venu chercher des histoires. Ah, no way, t'es venu chercher des histoires. Eh bien, si jamais tu passes par tel endroit, viens chez nous, je t'offre de l'hébergement, on pourrait même organiser une soirée de compte. Et puis, mon petit carnet se remplissait comme ça. Et finalement, j'organisais ma tournée en fonction de où est-ce qu'il y avait le plus de points sur un territoire rapproché. Il y avait une espèce de constellation par là de gens qui m'avaient dit qu'ils me recevraient. Donc, je les contactais par texto pour lui demander « Hey, si la semaine prochaine, je passe dans votre coin, c'est-tu bon pour oui? C'est-tu bon pour vous? Oui? Merveilleux. C'est booké. Et puis, pour les 4 prochains jours, je sais que je m'en vais chez un tel, puis un autre, puis un autre. » À faire des soirées comme ça. Et il y a un moment donné, moi, malgré tout, bon, je travaillais beaucoup avec mon téléphone, mon Google Maps me servait à me déplacer sur ce territoire-là. Je ne sais pas comment le monde voyageait avant d'avoir Google Maps. Moi, c'est un peu de même que j'ai appris. C'est là-dessus que je m'appuie. Mais mon Google Maps a des vestiges de ma dernière tournée. Il y a plein de points de ma dernière tournée que je ne sais pas trop c'est quoi. Il y a un point là qui est écrit Jean-Marc. Il y a un autre point là qui est écrit Ewen ou la fille de la bibliothèque. Et je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. C'est à des expériences que j'avais eues dans ma tournée il y a 4 ans. Et à un moment donné, il y a une femme qui me contacte par Facebook parce que j'annonçais ma tournée par Facebook sur ma page La Petite Grève. Et il y a une fille, Nadine, qui me contacte et elle me dit « Hey, ça serait trop le fun de te revoir. Si jamais tu passes par Ennebon, viens nous voir. On t'hébergera puis on fera une soirée de compte. » Et dans ma tête, ça fait Ennebon, mais j'ai été là, moi, il y a 4 ans, c'est-tu chez eux? Il me semble qu'elle s'appelait pas Nadine, la famille où j'avais été à Ennebon, et ça se met à me trotter dans la tête. Et à un moment donné, j'ai une constellation qui se forme autour de ça, puis ben oui, ça ferait bien Ennebon, ça me dépannerait. J'y écris, j'y dis « Je viendrai chez vous. » Parfait, les enfants sont contents. Mais moi, je sais toujours pas c'est qui. Accepter la possibilité peut-être que ça c'est la maison où ce que je vous en ai parlé dans un autre épisode, la maison où j'avais donc bien cherché où ce qui était les toilettes. Et ça serait incroyable que ça c'est cette maison-là. Je me déplace 2-3 livres plus tard, j'arrive dans Ennebon, je m'en vais dans le quartier proche. Et ça me dit de quoi, mais je suis pas certain. Me semble que oui, proche de ce château-là, parce qu'il y a des châteaux qui traînent un peu partout là-bas. Me semble que j'ai attendu proche de ce château-là. Et le soir vient, je me déplace vers la maison et même quand je suis devant la maison, je suis toujours pas certain que c'est celle-là. Je frappe à la porte et aussitôt qu'il y a une jeune fille qui m'a ouvert, je fais « Ah ouais, c'est ici, c'était cette maison-là. » Je peux pas croire que 4 ans plus tard, me revoilà. Et je retrouve la famille et puis ben c'est effectivement des retrouvailles. C'est du monde avec qui j'ai passé 4 heures en tout dans ma vie. Mais tout d'un coup, dans ce coin-ci, c'est le monde que je connais le plus. Et on se fait une soirée de compte et il me présente ma chambre. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre épisode, là, allez écouter l'autre épisode. Et c'est l'épisode 4 dans lequel j'en parlais la première fois. Et là, il me montre ma chambre, la chambre pour la visite, la chambre du quêteux, en me rassurant. « Patrick, ce soir, t'auras pas de problème à trouver la salle de bain. Va voir ta chambre, tu vas comprendre. J'arrive en haut, la chambre d'amis, c'est quoi? Ben, c'est en fait les toilettes qui ont été agrandies. Et maintenant, il y a l'espace pour un lit en plus. Me voilà confiné à mes appartements. Impossible que je me pare dans le chemin. J'avais dans la même pièce mon lit puis la salle de bain. Et cette maison-là, moi, je l'ai racontée 1000 fois. J'ai parlé de ça en revenant de mes voyages. Et il y a plein de trucs qui s'avéraient être inexacts. Le corridor était beaucoup plus large que ce que je me souvenais. La maison n'était pas tout à fait pareille. Mais en même temps, il y avait plplein de trucs qui étaient tellement fidèles. C'était quand même 5 portes et... Et là, je revoyais, ah oui, OK, donc celle-là, je pense, c'est la première porte que j'avais ouverte par erreur. Et je revisite toute cette scène-là. Je passe une soirée, je raconte des histoires dans le salon, autour de la table. Et je raconte des histoires le soir. Ils ont invité des amis à qui ils avaient parlé, bien sûr, de il y a 4 ans, leur expérience. Et c'était du monde qui était curieux de cette affaire-là. Ah, c'est lui, votre quêteux. Et le lendemain matin, je reprends ma route en gardant quand même la porte ouverte. « Pat, si jamais tu as besoin, repasse ici. T'es pas obligé de faire une soirée de compte. Si tu as besoin juste de prendre un break, regarde, viens prendre ta chambre d'amis. » Et comme de fait, quelques jours plus tard, je suis en train de repasser dans le coin, puis ouais, c'est vrai que ça ferait bien de s'arrêter. Je recontacte Nadine par texto en lui demandant « Je peux-tu repasser chez vous? » Et puis bien sûr, ben oui, tu peux repasser. Et quand j'arrive là le soir, Nadine, elle me dit « Patrick, quand t'as dit ça que t'allais repasser, j'en ai parlé aux enfants, Patrick va venir dormir à la maison. » Et le petit gars qui a peut-être 8 ans à cette heure ou 10 ans, il a dit Exactement 7 jours après son premier passage. Lui était là et il comptait les jours, sans savoir si j'allais repasser. C'était un événement dans sa vie, l'espèce d'oncle québécois qui était de passage. Il y avait, veux pas, moi, j'étais passé là il y a 4 ans, mais il y avait la moitié de son âge, c'était il y a la moitié de sa vie. C'est quand même des événements qui, finalement, marquent le monde. Sauf que contre-temps, la petite fille avait de la visite ce soir-là. La chambre d'amis, la salle de bain était déjà occupée. Donc, Patrick, ce soir, tu dormirais sur un petit matelas dans la chambre du petit gars. Moi qui, 4 ans auparavant, avais peur qu'on me soupçonne d'être en train de fouiller dans les chambres pour trouver je ne sais quoi, ce soir, on me faisait le cadeau de me dire « Voyons, on te fait confiance, il n'y a pas de trouble, dors à terre dans la chambre. » Le petit gars était tout content de m'avoir et le lendemain matin, juste avant que je parte, eux s'en allaient pour l'école, c'est le branle-bas de combat dans la maison. Et moi, je refais mon bagage, je zippe mes affaires en m'assurant qu'il ne me manque rien. Je refais l'espèce de chemin habituel où est-ce que j'ai la maudite habitude d'oublier ma brosse à dents là, mon savon à telle place, et puis j'étue du linge à la laveuse, à sécheuse, ci, ça. Je ramasse mon stock et le petit gars vient me voir et il est tout essoufflé puis il me dit « Patrick, tu t'en vas? » « Ben oui. » Eh bien, j'ai une histoire que j'aimerais te dire. Et ça devient clair pour moi. Depuis hier soir, il essayait de me dire une histoire. Depuis hier soir, il cherchait le moment, mais là, les adultes étaient en train de parler, ils n'osaient pas nous couper la parole ou ils ne trouvaient pas le courage, ils ne trouvaient pas le chemin pour me dire son histoire. Il avait ramassé une histoire quelque part. Et c'est ce matin, au moment où j'allais partir puis qu'il comprenait que ça se pouvait, que peut-être bien qu'il ne me reverrait jamais dans sa vie. C'était maintenant ou jamais, alors il a pris son courage à 2 mains, il a monté les marches, il s'en est venu me trouver. Patrick, j'aurais une histoire à te dire. Et Léo m'a raconté une histoire, une petite histoire qui dure 1 minute. Il m'a donné ça sans fioriture, juste un squelette de conte, mais qui était complet et qui m'était donné d'une telle manière, dans une telle enveloppe, qui me permettait de réaliser que dans ma collecte, à ce moment-là où je me promène sur un territoire et que tout le monde sait que je suis en train de chercher des histoires, derrière moi, je sème du monde qui savent qu'ils ont quelqu'un à qui en dire. Il y a quelqu'un que cette matière-là intéresse. Comme quand tu as un chum que tu sais qui adore les pierres précieuses, maintenant, à chaque fois que tu prends une marche sur la plage, quand tu en vois une, tu dis « Ah, je vais y ramasser ça, lui, il aime ça, quoi. » derrière moi, dans mon sillage, il y a une trollée de monde qui, peut-être en ce moment, sont en train de ramasser des comptes. Et maudit, il faudrait que je repasse là pour récolter. C'est l'ampleur du projet que ce petit gars-là venait m'apprendre ce matin-là. Et c'est une des histoires de plus maintenant qui s'est logée dans mon répertoire d'histoires courtes, l'histoire de Léo. Sinon, du reste de ce voyage-là, j'ai fait plein de rencontres de conteurs-conteuses. C'est sûr que c'est plus efficace pour trouver des histoires, de parler à du monde qui en sont plein, qui baignent dedans. Et il y a plein de conteurs-conteuses que j'ai rencontrés dans ce voyage-là qui m'ont donné des histoires et avec qui, entre autres, j'ai réussi à organiser des soirées de contes. Et je constate que là-bas, la réalité est un peu la même, que c'est pas évident d'aller à la rencontre du public, de faire des soirées de contes où est-ce qu'il va y avoir du monde qui vont se déplacer. C'est assez niché, des gens qui sont fans de contes, il n'y en a pas des tonnes. Et c'est un peu toujours les mêmes personnes que tu revois. Mais je voulais profiter du prétexte d'un conteur québécois pour aider ces conteurs-conteuses-là à rencontrer un autre public, du monde qui ne sont pas des abonnés de la culture, qui ne sont pas nécessairement des abonnés du conte, mais juste du monde qui avait envie de faire un voyage au Québec. Et puis, by the way, vous voulez en contact avec un conteur breton, un de chez vous. Maintenant, vous saurez que de un, vous aimez ça le conte, puis de deux, qu'il y en a chez vous. Alors maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Allez vous écouter. Donc, clairement, ce voyage-là, ce deuxième voyage en Bretagne, m'a permis de remettre un peu ma question, le format de mes voyages de conte. Autant au départ, mes premières tournées de quêteux, je les faisais en planifiant tout, en ayant des gens qui m'attendaient chez eux, des inconnus qui savaient que le 8 janvier, je m'en venais chez eux, puis le 7 janvier, chez un autre, et que dans ma deuxième tournée, j'allais carrément frapper aux portes, mais complètement en dehors de ma zone de confort, que j'avais l'impression de déranger les gens, de venir bouleverser le quotidien sans nécessairement vouloir le faire. Et là, je voyais qu'à mi-chemin entre les deux, j'étais capable de me remplir un carnet d'adresses et naviguer entre ces adresses-là, de savoir que des gens étaient disponibles, disposés à me rencontrer, mais quand même rester ouvert au spontané. Et puis peut-être bien que dans une couple de jours, je passerai chez vous. Ça te va-tu, ça? Moi, ce voyage-là m'a simplement donné envie de retourner au Québec, de retourner faire une tournée de quête au Québec en ramassant un bottin téléphonique de monde qui ont envie de dire oui au compte. Et j'irai peut-être frapper à votre porte, sachant que c'est une porte où est-ce qu'on dit le bienvenu au quête. D'ailleurs, si en entendant ça, vous vous dites « Hey, mais nous, on aimerait ça l'avoir chez nous », eh bien, inscrivez-vous à mon infolettre. C'est un peu le moyen de contacter le monde le plus efficace. Je ne suis pas trop gossant, là. Je suis à peu près pas assidu. Je pense qu'une fois ou deux ans, j'envoie une infolettre. Mais clairement, si je refais une tournée de quête au Québec, eh bien, je vais l'annoncer par l'infolettre, puis vous êtes sûr d'avoir l'information. Puis sinon, cette tournée-là en Bretagne, pour venir collecter des histoires, me fait comprendre aussi que je ne pense pas repasser en Bretagne pour collecter. Je crois que de passer une fois sur un territoire, c'est ben pas que c'est assez, mais ça te permet d'attraper un peu les grandes lignes, ça te permet d'attraper les contes les plus emblématiques. Tu sais, la première fois où j'étais passé en Bretagne, j'ai découvert l'Ankou, qui est le serviteur de la mort là-bas. C'est-à-dire que le dernier mort de l'année précédente, la dernière personne à mourir le 31 décembre, elle va se transformer en l'Ankou, qui est l'espèce de grande silhouette osseuse qui se promène sur sa charrette avec sa grande faux, la lame montée à l'envers, et qui vient chercher les morts de l'année. Pendant un an complet, c'est ça le serviteur de la mort. Donc, c'est un personnage qui fait ça un peu. Je veux dire, c'est pas de son plein gré, ça y est tombé dessus. Ça donne un rapport à la mort qui est complètement différent. Et quand j'ai rencontré ce personnage-là à mon premier passage en Bretagne, mais je capotais, je le trouvais beau, ce personnage-là. Donc, la deuxième fois que j'ai passé, il n'y avait plus ce coup de foudre-là. J'étais content de retrouver « Ah oui, j'ai déjà entendu cette histoire-là ». Mais si je pourrais traverser à moitié de la planète, j'ai envie un peu d'être dans cette nouveauté-là à chaque fois. J'en suis à me faire un peu ma liste de pays que j'ai envie de visiter pour aller collecter. Entre autres, au début de cette tournée-ci, quand j'étais en Ardèche, j'ai rencontré un gars qui vient du Pays Basque. Et ça m'a donc bien donné envie d'aller au Pays Basque parce qu'on a un héritage qui nous vient de là, mais il n'est pas clair. Et j'ai peut-être besoin d'aller vers ces racines-là parce que ça me parle aussi de chez nous. Veux pas, au Québec, on a un héritage basque qui est énorme, mais je parle un peu à travers de mon chapeau parce que je connais pas la culture basque, mais je sais qu'ils sont venus laisser leur empreinte à plein de moments. Vers 1400 après Jésus-Christ, les pêcheurs basques venaient en Gaspésie, entre autres, et je serais curieux d'aller à leur rencontre. Donc voilà un peu pour ma deuxième tournée en Bretagne où j'avais été collecter des histoires. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai du conte en particulier, de celui-là que j'étais venu chercher en France. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.